Vous écoutez, on lit pour vous.
Arriéré culturellement. Une réflexion personnelle sur le génocide culturel. Un texte de Robert Falcon-Ouellette, paru le 7 avril 2025 dans Espaces autochtones. En écrivant ces mots, je ressens une profonde tristesse et, honnêtement, un sentiment de malaise. Le poids des récentes paroles que j'ai entendues m'a secoué jusqu'au fond de mon être. Une vidéo envoyée sur Twitter m'a d'abord semblé être une théorie du complot farfelu, quelque chose qui ne m'intéressait pas. Mais à mesure que je creusais, la réalité a commencé à s'installer. La vidéo capturait une entrevue de 1965 avec Robert J. Carney, un éducateur catholique et directeur d'école primaire fédérale, fréquenté par des enfants de pensionnat dans les territoires du Nord-Ouest, qui décrivait les élèves autochtones comme « arriérés culturellement ». Ces mots, bien qu'en adéquation avec l'époque, étaient durs alors et restent impardonnables aujourd'hui. Robert Carney expliquait que « arriérés culturellement » désignait des enfants issus de milieux autochtones qui n'avaient pas fréquenté l'école régulièrement ou qui étaient en retard dans leurs études. Ces paroles étaient imprégnées d'ignorance et de racisme systémique, des termes nuisibles alors et toujours nuisibles aujourd'hui. En réfléchissant à ces mots, je ne peux m'empêcher de me demander « Est-ce que les gens me voient de la même manière? Est-ce qu'ils considèrent tous les Autochtones comme arriérés à cause de notre identité? » Ces pensées me hantent, surtout quand je repense à mon passage à la Chambre des communes. J'ai mené une élection que beaucoup pensaient que je ne gagnerais pas, et pourtant, nous avons triomphé. Mais même dans la victoire, j'ai fait face à des rappels constants que mon espace se limitait uniquement aux questions autochtones. Citation. « C'est ton domaine. Ne parle pas d'autre chose. » Fin de citation était la règle tacite à laquelle j'étais confrontée au sein du Parti libéral. Chaque fois que les médias cherchaient un commentaire de ma part, c'était toujours sur les questions autochtones. Mes contributions en dehors de ce cadre étaient souvent rejetées. Des années à prouver mes capacités, à bâtir un CV que je pensais suffisant, ont été réduites à « tu es bon pour cela ». J'ai dû constamment me battre pour me faire une place à la table où ma voix était valorisée, pas seulement en tant qu'Autochtone, mais en tant qu'être humain dont les pensées et opinions comptaient au-delà de mon héritage. À chacun son héritage. Cette réalité est devenue encore plus claire lorsque j'ai réalisé que des personnes comme Mark Carney, malgré l'héritage controversé de son père, ne sont pas limitées par ces contraintes. Les liens de son père avec le système d'effacement culturel dans les territoires du Nord-Ouest sont indéniables. Dans quelle mesure la perspective de Mark Carney est-elle façonnée par l'héritage de son père? L'héritage de Carney est mélangé dans l'histoire coloniale. Bien que nous ne soyons pas responsables des actions de nos parents, nous devons reconnaître leur impact sur la construction du présent. Les cicatrices laissées par les écoles résidentielles, les écoles de jour et la destruction de nos langues et cultures sont profondes, transmises de génération en génération. Mark Carney a l'opportunité de façonner le récit à venir. Je me demande comment il abordera le bilan qui tarde à venir. Abordera-t-il les torts du passé de manière significative? Travaillera-t-il pour la réconciliation, non seulement comme un geste politique, mais comme un engagement authentique pour défaire l'héritage du génocide culturel qui affecte encore les peuples autochtones? Et peut-être pourrait-il arrêter de parler de Trump comme si c'était la seule chose qui compte? Les luttes des Autochtones sont souvent mises de côté et il est temps que des leaders, comme Carney, accordent à ces enjeux l'attention qu'ils méritent. La vérité est que la réalité de ces atrocités est souvent balayée sous le tapis. On nous dit de passer à autre chose, mais le passé continue de nous hanter. En tant qu'enfant d'un survivant d'école résidentielle, je suis constamment rappelée à la vie que mon père n'a jamais eue. Ces expériences ont façonné son monde d'une manière que je ne comprendrai jamais pleinement. Mais ce que je peux faire, c'est honorer son héritage, sa résilience. Je m'efforce de vivre la vie qu'il n'a jamais eue. Je m'efforce d'être bon envers mes enfants, d'offrir mon aide à ceux qui en ont besoin et de contribuer à ma communauté. Quand je regarde des vidéos comme celle de Robert Carney et lis sur sa complicité dans le système même qui a essayé d'effacer la culture de mon père et ma famille, je ressens un profond chagrin et une colère. Nous devons nous rappeler que cette histoire n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement oublier, ni devrions-nous le faire. Même aujourd'hui, de nombreux peuples autochtones continuent de faire face aux conséquences d'un système conçu pour détruire notre culture, notre langue et notre identité. Les enjeux autochtones oubliés. Je comprends mieux pourquoi Mark Carney, lorsqu'il est venu à Winnipeg le 1er avril, n'a pas pu utiliser le mot « autochtone » dans son discours. Pendant si longtemps, des termes comme « indien », « natif » ou « arriéré culturellement » ont été utilisés pour nous définir d'une manière qui n'était pas la nôtre. La réticence à adopter le terme « autochtone » reflète un malaise à confronter la vérité de ce que ces termes représentaient. Un système construit sur la destruction de nos cultures, l'effacement de nos langues et l'érosion de notre identité. Il est temps d'arrêter de se cacher derrière ces vieux termes. Il est temps de confronter le passé. Pourquoi Robert Carney a-t-il quitté les territoires du Nord-Ouest quand Mark avait 6 ans? Était-ce parce qu'il ne voulait pas que ses enfants fréquentent une école avec ceux qu'il appelait les arriérés culturellement? Quelle a été la véritable motivation derrière cette décision et comment cette décision, liée au travail de son père, a-t-elle façonné la compréhension de Mark des peuples autochtones? Dans l'éducation, il y a le programme écrit et le programme implicite, les mots laissés non dits. Lequel est le plus important? Stephen Harper a un jour dit que ce n'étaient pas les grandes décisions qui comptaient, mais les 150 décisions qu'un leader prend chaque jour. Comment Mark Carney a-t-il été façonné par les valeurs subconscientes de sa vie? Texte en italique. Arriéré culturellement, dans l'ombre du passé, le génocide culturel, jamais oublié, les péchés de nos pères, lourds à porter, sommes-nous destinés à les répéter? Fin du texte en italique. C'était Arriéré culturellement, une réflexion personnelle sur le génocide culturel. Un texte de Robert Falcon-Ouellet, paru le 7 avril 2025 dans Espaces autochtones.
Toujours pas d'encadrement national des fouilles complètes en centre jeunesse. Un texte de Stéphanie Vallée, paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir. Malgré les recommandations de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, CDPDJ, émises en 2023, les fouilles complètes dans les centres jeunesse ne sont toujours pas encadrées de manière uniforme dans la province. Québec solidaire presse donc le gouvernement d'établir des directives ministérielles claires en la matière. Pour un jeune de 14-15 ans, vivre une fouille complète, c'est l'élément le plus humiliant de sa vie, explique au Devoir le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard. Dans le cadre de ses fonctions de porte-parole solidaire en matière de services sociaux, M. Cliche-Rivard se rend régulièrement dans des centres jeunesse où il échange avec des jeunes placés en réadaptation. Au cours des dernières années, il a choisi de porter le dossier de l'encadrement des fouilles complètes effectuées sur ces mineurs. Certains établissements demandent aux jeunes de se dévêtir, d'enfiler une robe de chambre, puis de s'accroupir tout en sautillant afin de s'assurer qu'ils ne cachent rien dans leur cavité anale. On parle de mineurs qui sont là pour recevoir les services essentiels, en pleine reconstruction de leur vie, souligne l'élu. Moi, il y a un jeune qui m'a dit « Je me suis volontairement remis à la DPJ parce que ça n'allait pas bien dans ma famille, puis c'est ça que j'ai subi en centre jeunesse. Finalement, c'était moins pire à la maison. » Sautillé en crapaud. Avocate en droit de la jeunesse, Mylène Leblanc considère comme urgent d'adopter une ligne directrice assez rigide et qui va dire que l'exception, c'est la fouille. Ce que dit la loi, c'est qu'il faut qu'on soit dans une situation où on a un motif raisonnable de penser que c'est dangereux pour la sécurité de l'enfant ou pour la sécurité des autres. Mais dans les politiques que je vois, c'est très large. une vapoteuse pourrait être considérée comme un danger pour l'unité. Ça n'a pas de sens, déplore Maître Leblanc, tout en précisant qu'il revient encore actuellement à chaque établissement de déterminer quels sont les objets interdits. Une vapoteuse pourrait être considérée comme un danger pour l'unité, dit-il. Ça n'a pas de sens. Le député solidaire Cliche Rivard réclame lui aussi un cadre de référence national, comme c'est le cas dans les prisons, pour éviter des dérapages comme celui qui a eu lieu en avril 2023 en Estrie. À l'époque, un jeune de 16 ans du centre Val-du-Lac à Sherbrooke avait dû se soumettre à une fouille complète alors que la direction cherchait à récupérer une clé maîtresse de l'établissement qui avait été volée. Ce dernier a donc dû sauter, accroupi et nu, sous sa robe de chambre, pour pouvoir se disculper. L'adolescent avait ensuite porté plainte contre le centre jeunesse et s'était adressé aux médias. Contacté par Le Devoir, la CDPDJ rappelle que les mineurs doivent être traités différemment des adultes et recommande que les balises nationales interdisent tout contact physique ou demandent à un adolescent de s'accroupir et de sauter pour faire tomber d'éventuels objets dissimulés. La commission réitère également la nécessité d'un encadrement strict des fouilles dans les centres jeunesse afin qu'elles aient lieu dans le respect des droits fondamentaux des adolescents, en particulier leur droit à la vie privée, à l'intégrité et à la dignité. Elle rappelle que seuls des motifs raisonnables doivent mener à une fouille complète et que les fouilles systématiques au retour d'une fugue ne peuvent satisfaire le critère des motifs raisonnables. Cadre légal aléatoire. Selon les informations obtenues par Le Devoir, depuis l'incident de 2023 au centre jeunesse Val-du-Lac, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUS de l'Estrie, a modifié à deux reprises sa procédure, abolissant la palpation des parties du corps, mais aussi la possibilité de demander aux jeunes de s'accroupir quand ils sautent. Le CIUS a tenu à préciser que lors d'une fouille, les parties génitales ne sont pas examinées. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes de sautiller sur place afin de s'assurer qu'aucun objet ne puisse être inséré dans ces cavités corporelles ou dissimulé sous ces parties génitales. En consultant des documents faisant état des procédures en place dans divers établissements, nous avons pu constater que les balises sont bien différentes. Sur la Côte-Nord, il est possible de fouiller un jeune, sommairement, par palpation ou avec un détecteur de métal, ou complètement, après être déshabillé et couvert d'une serviette, sans exposer ta nudité, sans plus de détails sur la procédure. Dans les Laurentides, la description est beaucoup plus détaillée. Un examen visuel de la plante des pieds, de l'intérieur des mains, de l'intérieur de la bouche, sous les aisselles et dans les cheveux est effectué, tout en permettant à la personne fouillée de conserver le vêtement qui lui a été prêté. On ne peut pas permettre qu'un jeune en Estrie ait des droits différents d'un jeune à Saint-Hyacinthe. Ça n'a pas de sens, lance Guillaume Cliche-Rivard qui rappelle qu'en 2023, la CDPDJ avait déjà demandé à la DPJ de fixer des balises nationales à la suite d'une enquête de Radio-Canada dévoilant que 5700 fouilles complètes avaient été faites en 2022. Bien qu'ils comprennent la nécessité de pouvoir recourir à la fouille complète en cas de danger imminent, le député Cliche-Rivard invite le gouvernement à mettre en place des directives qui prennent en considération les répercussions de ces fouilles sur les adolescents. Est-ce qu'on peut réfléchir à l'humiliation que cela peut représenter pour un jeune de 16 ans à qui on exige de se mettre tout nu pour une clé ou une vapoteuse? Demande-t-il. Contactée par Le Devoir, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Leslie Hill, s'est dite très préoccupée de bien encadrer l'utilisation de ces mesures au-delà d'orientations ministérielles. Elle demande à Santé Québec d'exercer une surveillance accrue sur cette question. une approche équilibrée est nécessaire entre sécurité et respect des meilleures pratiques d'intervention, a indiqué Mme Hill par courriel. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, ne s'est pas prononcé sur ses intentions d'émettre ou non une directive nationale en la matière. De nouveaux indicateurs vont désormais permettre à la DPJ de suivre toutes les mesures de contrôle et leur utilisation. Madame Hill pourra surveiller en continu les mesures et pourra intervenir le cas échéant. Elle a toute la latitude et me fera rapport régulièrement de l'évolution de la situation, a-t-il fait savoir au Devoir. C'était « Toujours pas d'encadrement national des fouilles complètes en centre jeunesse », un texte de Stéphanie Vallée paru le 30 avril 2025 dans Le Devoir.
Un espace LGBTQ+, du rêve à la réalité? Une chronique de Denis Daniel Boulay paru le 19 mai 2025 dans le magazine Fugue. Le projet de l'espace plus dans le village est très excitant. Il cherche à revitaliser le village en tant que lieu de vie, d'échange et de soutien pour les personnes LGBTQ+, tout en mettant en valeur la richesse et la diversité de ces communautés auprès de l'ensemble des Montréalais, Montréalaises. Mais saviez-vous que ce n'est pas le premier projet pour regrouper le communautaire LGBTQ+? Dès le début des années 90, les organismes communautaires LGBTQ ont envisagé la création d'un grand centre communautaire à l'image de ceux qui se sont créés dans d'autres grandes villes, dont, entre autres, New York, Los Angeles, Toronto. On en rêvait, on s'agitait. Et puis, en juin 2000, on annonçait en grande pompe qu'un projet en ce sens verrait le jour. On parlait même, alors, de contributions citoyennes et solidaires en achetant des briques de l'édifice. L'enthousiasme était palpable. Les idées fusaient sur les avantages que tout le monde pourrait retirer de la construction d'un édifice dans le village sur la rue Sainte-Catherine. D'autant qu'il serait architecturellement remarquable, une immense signature de la présence LGBTQ2S+. À l'époque, on parlait plus d'un centre communautaire gay et lesbien. Point. Dans les années qui avaient précédé, de nombreuses consultations avaient été faites auprès des principaux intéressés, mais aussi auprès des décideurs aussi bien publics que privés. La mission était claire, centraliser les activités des organismes et réduire les coûts pour se loger, et qu'à terme, le centre devienne financièrement autonome. Et l'on voyait grand. Des bureaux pour les organismes, une grande salle multimédia pouvant au gré des demandes devenir salle de conférence, théâtre, un centre de documentation accueillant les archives, une bibliothèque et des salles pour la formation pour les bénévoles et les responsables d'organismes. Pour le financement, on s'était tourné vers les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, et la ville de Montréal. On avait frappé aux portes du privé et l'on a invité les citoyens à contribuer financièrement. Les plus anciens, anciennes, se souviennent de cette proposition que chacun achète des briques, c'est-à-dire faire un don et regarder combien de briques on pourrait acheter avec ce don. L'idée était sympathique et amusante, d'autant qu'il était envisagé que chaque donateur et donatrice recevrait un document soulignant son implication dans la construction du centre. On avait même créé une fondation du nom de Mario Racine, ancien militant du centre communautaire, choisi un président d'honneur, le comédien André Montmorency, et plusieurs personnalités publiques très connues avaient accepté d'être membres honoraires pour porter la bonne parole. Pendant plusieurs mois, au rythme des rencontres, on a voulu y croire. Celles et ceux derrière le projet avaient retenu un site, là où se trouve l'actuelle place du village, et une maquette ainsi que des dessins circulaient, dans Fugue, entre autres, et l'on se prenait à rêver devant cet édifice qui en imposerait. Malheureusement, les négociations pour acheter les parcelles, qui formaient le terrain se compliquèrent, certains propriétaires voulant profiter de la situation et montaient les enchères au point où le projet sous cette forme n'était plus viable. On avait donc modifié le projet pour l'intégrer dans l'édifice de l'autre côté de la rue Attateken, Amherst à l'époque, qui était en voie d'être transformé en condo. Le centre LGBTQ+ deviendrait donc un large condo commercial, parmi d'autres, géré par le centre communautaire. Chaque salle devait porter le nom de quelqu'un, quelqu'une, qui avait marqué l'histoire de nos communautés. Les mois passèrent et le projet n'aboutit pas. La Fondation n'avait pas réussi à s'entendre pour l'achat de l'espace commercial et les quelques briques achetées resteront dans un entrepôt. Déception pour moi qui rêvais que des toilettes portent mon nom. Un souhait exprimé à l'époque en échange d'une participation à l'achat de quelques briques. Comme toujours, les raisons de cet échec étaient nombreuses. La principale tient dans l'impossibilité des principaux acteurs chargés de mener à bien le projet financièrement. Des divergences apparurent comme le droit de regard qu'auraient pu avoir les grands donateurs sur le montage financier. Mais l'engouement n'était plus au rendez-vous. De nombreux organismes ne croyaient plus en la viabilité du projet. Publiquement, certains soutenaient le projet, mais en privé s'inquiétaient de perdre leur indépendance financière. D'autres souhaitaient que l'adresse physique de leur organisme reste confidentielle pour des raisons de sécurité. Enfin, certains responsables d'organismes n'avaient qu'une confiance limitée dans l'équipe qui menait le projet. 25 ans plus tard, un projet renaît et heureusement sur des bases différentes. À l'époque, le projet était le vœu du centre communautaire, qui, une fois le bâtiment réalisé, aurait loué des espaces aux organismes communautaires tout en gardant la gestion du bâtiment, de son entretien et, bien évidemment, de son devenir. La démarche pour l'espace LGBTQ+ est tout autre. Les organismes communautaires intéressés, et ils sont aujourd'hui plus d'une soixantaine à être membres d'espaces LGBTQ+, dont un peu plus d'une douzaine auraient des locaux permanents, sont donc partie prenante de l'avancée de ce projet. On souhaite que la prise 2, l'espace plus dans le village, soit enfin la bonne. On a même bien hâte à son inauguration. En fait, on se doit de soutenir et d'applaudir ce projet qui devrait recevoir le soutien non seulement par celles et ceux qui en ont la charge, non seulement par les décideurs et les élus, mais par la population, qu'elle soit LGBTQ2S+ ou non. Pour le moment, les astres semblent s'aligner pour qu'enfin ce lieu dont on a souvent rêvé devienne réalité et sans qu'on nous demande d'acheter les briques. Mon souhait demeure que des toilettes portent mon nom, mais des toilettes non genrées, bien entendu. C'était un espace LGBTQ+, du rêve à la réalité? Une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 19 mai 2025 dans le magazine Fugue.
Journée des Patriotes ou Fête de la Reine, c'est quoi la différence? Un texte de l'agence QMI, paru le 15 mai 2025 dans le Journal de Montréal. Journée nationale des patriotes, fête de dollars, de chénier, fête de la reine, quelle que soit la raison que vous choisirez de célébrer, la province sera en jour férié lundi 19 mai 2025. Mais d'où viennent ces fêtes et laquelle souligne-t-on au Québec? Quand souligne-t-on les patriotes ou la reine? Chaque année, cette double célébration de la Journée nationale des Patriotes et de la Fête de la Reine est soulignée le lundi précédent, le 25 mai. Lors de cette journée, le pays entier est en jour férié, même si les provinces ne célèbrent pas toutes le même événement. Quelle reine célèbre-t-on pour la Fête de la Reine? Le jour férié de mai, institué en 1901, servait à l'époque à souligner l'anniversaire de la reine Victoria, d'où les deux appellations, la fête de Victoria ou la fête de la reine, née le 24 mai 1819, selon l'Encyclopédie canadienne. C'est en 1840, au moment de l'union du Haut et du Bas-Canada pour créer la province de Canada, qu'on aurait choisi de souligner la fête de Victoria comme symbole de loyauté envers la monarchie. Cela servait aussi à distinguer les Canadiens des Américains qui avaient, de leur côté, brisé les liens avec le Royaume-Uni. Ce n'est qu'à la mort de la reine Victoria en 1901 que le congé est devenu un jour férié officiel, placé le lundi précédant le 25 mai pour prolonger la fin de semaine. La Journée nationale des Patriotes, l'origine. Au cours des années 1900 et 1910, les Québécois auraient commencé à évoquer le congé comme la longue fin de semaine de mai pour indiquer leur ambivalence face à la monarchie, selon l'Encyclopédie canadienne. C'est alors que plusieurs nationalistes auraient proposé de renommer la fête en l'honneur de Adam Dollard des Ormeaux, qui aurait marqué l'histoire québécoise en tentant de résister avec 16 volontaires à une attaque d'Iroquois sur Ville-Marie en vain. Puis, à l'occasion du 125e anniversaire des luttes patriotes de 1837-1838, en 1962, la célébration a adopté le nom de « Fête de Dollard et de Chénier », en l'honneur du patriote Jean-Olivier Chénier, acclamé comme le plus grand héros canadien-français décédé lors de la bataille de Saint-Eustache en 1837, selon l'Encyclopédie. D'autant plus que de récentes études ont jeté un sérieux doute sur la nature héroïque de la conduite de Dollard des Ormeaux et de ses hommes. C'est finalement en 1982 que la population commencera à exercer des pressions pour obtenir un jour férié annuel en mémoire des patriotes, qui remplacera officiellement le jour férié existant de la fête de Dollard ou de la fête de la reine en 2002. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, même si la dualité persiste entre le Québec et les autres provinces qui célèbrent ces deux fêtes opposées, les manifestations concrètes autour de ces événements se font plutôt rares. Alors que le jour est plutôt considéré comme un congé qui rallonge la fin de semaine, selon le réseau de diffusion des archives du Québec. C'était « Journée des Patriotes ou Fête de la Reine, c'est quoi la différence? » Un texte de l'agence QMI, paru le 15 mai 2025 dans le Journal de Montréal.